Oui, mesdames et messieurs, chers amis, c'est évidemment avec une immense émotion que, comme tous ceux qui se sont exprimés avant moi, je vous parle ce soir. Tout ce qui a été bien dit, bien pensé, bien réfléchi, et surtout fortement et légitimement ressenti. Nous avons tous partagé le sentiment, et nous partageons tous, le sentiment d'une souffrance qui est celle du peuple arménien dans son ensemble, et plus particulièrement des Arméniens du Haut-Karabakh. Nous partageons non seulement cette souffrance, mais un sentiment profond d'injustice, d'iniquité, une injustice nouvelle, une iniquité supplémentaire imposée à un peuple qui en a déjà supporté plus que son compte. Cela a été dit par tout le monde. Moi, je voudrais, à la fois de façon aussi dépassionnée que possible, mais sommes-nous capables d'être dépassionnés face à une situation de cette nature, et d'une façon aussi, ce qui est le contraire de ce que je viens de dire, de la dépassion, d'une façon très profondément angoissée, parce que j'ai le sentiment, je voudrais vous parler de ce que j'ai, ce que je ressens comme président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire comme député français, plus ou moins en charge avec tous mes collègues d'accompagner la politique étrangère de la France, mais aussi comme citoyen européen et comme membre de la communauté internationale. Les mots de François Pupponi tout à l'heure sont les miens. J'ai un sentiment de profonde honte, non pas en tant que Français, car je crois que nous faisons ce que nous pouvons, qui n'est hélas pas du tout suffisant, mais qui est ce que nous pouvons faire. Mais en tant qu'Européen et en tant que membre de la communauté internationale, je trouve très franchement que nous ne sommes pas, que nous n'avons pas été, que nous ne sommes pas à la hauteur et que nous avons beaucoup de mal, non pas à partager votre souffrance, la souffrance des Arméniens du Haut-Karabakh ou de la République d'Arménie, mais à apporter ne serait-ce que l'esquisse de quelques solutions. De ce point de vue-là, l'intervention dans laquelle je me suis le plus directement reconnu, c'est celle de François Pupponi. Je crois que, d'abord, ce que je ressens, c'est une complaisance généralisée de la communauté internationale. Je crois qu'il faut regarder les choses là froidement et voir à quel point s'est mise en place une mécanique de l'indifférence, une mécanique du désengagement, une mécanique de l'irresponsabilité, du lavage de mains devant ce qui se passe. Regardez ce qui entoure l'Arménie. D'abord la Turquie. La Turquie, nous voyons bien ce qu'elle a en tête. Une nation, deux États, a répété Erdogan. L'idée est simple, il se fiche du Haut-Karabakh comme de son premier col marin. Ce qui l'intéresse, c'est la continuité territoriale entre les deux parties de l'Azerbaïdjan et la vieille passion du terrible Enver Pacha, c'est-à-dire la marche vers la mer Caspienne de l'ensemble turc. Donc son objectif fondamental, c'est évidemment la solidarité avec l'Azerbaïdjan sur ce qui intéresse l'Azerbaïdjan, mais c'est au-delà la rupture de la souveraineté arménienne. Je crois qu'il faut avoir ça présent à l'esprit. Deuxièmement, Et la Turquie a les moyens. Ce qui s'est passé au cours des dernières années, à la fois en termes d'équipement militaire, des chiffres ont été donnés tout à l'heure, montrant l'ampleur de l'assistance militaire de la Turquie à l'Azerbaïdjan, mais aussi en stratégie. Le drame, c'est que c'est une armée moderne, inspirée des concepts de l'OTAN par le biais de la Turquie, qui s'est engagée dans cette affaire. Deuxièmement, la Russie. La Russie, c'est très simple. Elle poursuit deux objectifs. D'abord, une solidarité antidémocratique. Ce que les Occidentaux ne veulent pas reconnaître, c'est que les Occidentaux, c'est-à-dire les Américains, une bonne partie des Européens, ne veulent pas reconnaître, c'est que Pachinian est d'abord un des héros, un des successeurs du monde soviétique qui a choisi comme le président de l'Ukraine, comme la présidente de Moldavie, la démocratie et la lutte contre la corruption. Alors que la préférence russe est évidemment pour des dictateurs et pour un État corrompu. C'est d'ailleurs très significatif que malgré les difficultés et les défaites des dernières années et de ces derniers jours, le parti au pouvoir a quand même fait un score assez remarquable aux élections municipales d'il y a quelques jours. Deuxièmement, il y a donc cette solidarité anti-autoritaire, elle vise à déstabiliser le pouvoir arménien et elle vise évidemment à se solidariser avec ce fils de héros de l'Union soviétique qu'est le président de l'Azerbaïdjan. Deuxièmement, l'objectif de la Russie, c'est de garder la frontière sud de l'Arménie. La Russie veut passionnément résister à la réduction de son territoire. C'est l'objectif absurde que Poutine poursuit en Ukraine. Il le poursuit aussi. Son objectif est de contrôler le sud de l'Arménie. De ce point de vue-là, il a une solidarité conflictuelle avec la Turquie, mais l'un et l'autre ne veulent pas que l'Arménie reste une puissance souveraine, mais un État satellite, plus ou moins contrôlé par les Russes. Troisièmement, il y a l'Iran. L'Iran, c'est la seule puissance qui, objectivement, a intérêt au maintien de la République arménienne. Pour des raisons qui n'ont rien à voir, évidemment, avec la moindre solidarité idéologique ou la moindre considération pour l'Arménie. Mais simplement parce que l'Iran ne peut pas accepter le projet turc de continuité territoriale que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors l'Iran se fiche comme de son premier col marin, comme de son premier turban, du Haut-Karabakh. Ça ne l'intéresse pas. Mais en revanche, l'Arménie est très présente. Voilà la situation. Et derrière la solidarité avec l'Iran, il y a effectivement deux grands États qui, de taille différente, mais tous les deux très importants, qui sont mobilisés. Israël, qui a des solidarités profondes avec l'Azerbaïdjan, car il surveille l'Iran à partir de l'Azerbaïdjan, et les États-Unis, qui n'ont d'autre idée que de séparer, s'inquiètent d'un État qui est protégé plus ou moins par l'Iran, et qui n'a d'autre idée que de séparer l'Azerbaïdjan de la Russie. Tout ça définit une configuration géopolitique effrayante, terrifiante pour l'Arménie. Et je crois qu'il faut en être conscient. Face à cela, et c'est le deuxième point, et c'est là l'objet de ma très grande tristesse en tant que militant européen, c'est de voir à quel point l'Europe est démobilisée, divisée, non seulement impuissante, nous sommes impuissants, parce qu'il est évident qu'on ne va pas, on peut peut-être donner des armements à M. Pachinian et à la République d'Arménie, mais on ne peut pas faire grand-chose sur le plan de l'assistance militaire. Mais l'Europe est non seulement démobilisée, et non seulement divisée, impuissante, elle est aussi démobilisée. Je suis frappé de voir que
Il y a en Europe une partie qui est sensible aux intérêts turcs, notamment au sud. L'Italie, pour dire les choses, l'Espagne, qui a toujours été, depuis Lépante est bien oublié, qui est toujours solidaire des intérêts turcs. Il y a le parti autoritaire, qui aime bien les dictateurs, notamment le président de la Hongrie. Il y a le parti américain, qui dit que puisque les Américains soutiennent l'Azerbaïdjan, on ne va pas se mobiliser très fortement pour l'ennemi, l'adversaire de l'Azerbaïdjan. Et tout ça se couronne avec l'hypocrisie de l'Union européenne, qui fait semblant de croire que Bakou participe à la lutte pour les sanctions contre la Russie en nous vendant des hydrocarbures et du gaz. En réalité, on sait bien que ces produits sont des produits visant à détourner les sanctions. Donc cette situation fait que la France est relativement seule. Et ça, c'est quelque chose que je trouve inadmissible. Ce que j'ai entendu à l'instant de Sylvain Tesson est exactement ce que je pense. Il dit les mots justes. Derrière l'Arménie, il y a toutes nos valeurs. Et derrière nos valeurs, il y a l'avenir même de l'Europe. Et je désespère de voir l'Europe agir. Alors, que faire? Que pouvons-nous faire face à cette situation? Je crois qu'il faut distinguer les problèmes du Haut-Karabakh et les problèmes d'aujourd'hui et les problèmes de demain. Et ce demain peut être très proche de l'Arménie. Sur le Haut-Karabakh, je crois que c'est assez tragique. Je crois que François Pouponi a dit les choses dans les termes qui convenaient. C'est inutile de dire on va préserver les droits des Arméniens du Haut-Karabakh. Tout ça est de la blague. La vérité, c'est qu'il faut préserver leur vie, qu'il faut éviter les exactions, qu'il faut permettre un départ dans des conditions honorables, dans des conditions et favoriser leur accueil, leur intégration, là où ils voudront s'intégrer, et d'abord en Arménie. Et je crois que là, l'Europe a vraiment quelque chose à faire. L'Europe est bien admise en Arménie. J'étais avec la mission, nous sommes allés sur la frontière, et je voyais que chaque fois qu'on arrivait avec notre camion au fanion de l'Europe, eh bien, on était klaxonnés en signe d'accueil et de sympathie. Mais je me disais, est-ce que l'Europe est à la hauteur de la sympathie dont elle bénéficie? Je n'en suis pas sûr. Et je crois que là, nous avons un effort considérable à faire, à la fois pour favoriser dans de bonnes conditions, enfin dans des conditions non mauvaises, le sauvetage, le véritable sauvetage d'une population qui est livrée, qui sera livrée à des exactions sans nom. Moi, je n'ai pas compris qu'on puisse dire que l'Azerbaïdjan était dans son droit de faire ce qu'elle voulait au Karabakh, parce que le principe de l'ONU, c'est Gérard Araud qui rappelait ça, il ne le prenait pas à son compte, mais il rappelait que c'était l'opinion générale, parce que c'était la doctrine de l'ONU. Ça m'a rappelé Goebbels. Goebbels disait, le jour où il a quitté la SDN, nous n'autorisons personne à nous dire ce que nous devons faire avec nos juifs et avec nos communistes. C'est exactement le même raisonnement. Nous ne pouvons pas l'accepter, nous avons le devoir de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'exactions, et là peut-être l'Europe et les États-Unis se réveilleront, et surtout à organiser la solidarité pour l'accueil. Ça sera une aide à apporter à la République d'Arménie, et ce sera une aide à apporter à ceux qui la quitteront. Et puis au-delà, je terminerai par là, comment se présente la situation demain, la situation pour l'Arménie. Elle est terrible, parce que évidemment, pour la Turquie, c'est un premier pas. Le Haut-Karabakh leur est indifférent, mais le couloir, l'intégrité de l'Arménie ne leur est pas indifférente. Donc la pression sera très forte. Elle se fera par l'Azerbaïdjan et par la Turquie. La seule protection, c'est jusqu'à présent la garantie de l'Iran, ce qui est quand même une garantie plus ou vraiment fragile et inquiétante. Et ce que je crains, et ce contre quoi nous devons nous prévenir, c'est une sorte d'accord qui se ferait entre la Russie, la Turquie et l'Azerbaïdjan dans le dessein de dire, voilà, on réorganise, en fait, on met en cause la souveraineté de l'Arménie sur le sud, on réorganise un couloir qui sera là, contrôlé par les Russes. Pourquoi contrôlé par les Russes? Parce que c'est l'intérêt des Russes et parce que c'est la seule chose qui pourrait être acceptée par les Iraniens. Et là, dans ce système, la République arménienne est menacée dans son intégrité et dans sa souveraineté. J'ose espérer que la communauté internationale, que les États-Unis d'Amérique et surtout que l'Union européenne n'accepteront pas cela. J'ose espérer que nous nous battrons politiquement avec plus de courage, avec plus d'efficacité pour la défense de l'intégrité de la République arménienne. Mais voilà les deux enjeux. Permettre à une population qui est en voie de martyrisation, qui est en voie de génocide, ce à quoi nous assistons, c'est un nettoyage ethnique porté par une menace génocidaire. Ça, nous devons absolument y faire échec et permettre aux 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh de retrouver une vie décente. Et deuxièmement, nous devons bien savoir que demain, c'est le combat pour la sécurité, la souveraineté, l'intégrité de l'Arménie qui devra nous mobiliser. Et j'espère, avec un peu plus de courage, de mobilisation, de capacité d'action, que ce dont nous avons fait preuve jusqu'à présent, la France exceptée, car la France n'a jamais été défaillante, mais le reste, oui. Et j'espère que la France aura le levier d'Archimède qui permettra de mobiliser l'Union européenne et la communauté internationale. Je vous remercie.